Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire et il est aussi celui qui écrit l'histoire, pour prendre le titre d'une émission.
Edmond Charleroux.
Les académies, les habits verts, les prix et tout ce théâtre ne va pas.
À Paris, la présidente de l'Académie Goncourt avait longtemps pris le parti d'habiter en haut de son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères. Le mobilier de l'étage noble, qui a fini à la salle des ventes, correspondait à ce qu'on attendait d'une famille de la grande bourgeoisie traditionnelle. Les fauteuils en survivaient, dissimulés sous des housses. Comme elle détestait ce qui était habituel, elle avait en revanche aménagé son perchoir à sa façon. Il lui ressemblait. Elle n'avait pas aimé qu'il ait été victime d'un cambriolage, surtout que son époux, Gaston Defferre, à l'époque était ministre de l'Intérieur. Qui, en revanche, était annoncé, était reçu, avec la plus grande courtoisie. Edmond, ainsi qu'on avait fini par l'appeler, portait l'uniforme qu'on attendait, chemisier de soie, collier, cheveux tirés en arrière dans un chignon haut, et de ses lèvres minces sortaient des mots comme « ciselé, prendrez-vous un thé, un chocolat ?» Et même si la question était idiote, elle racontait volontiers ses sept vies. La guerre de l'autre siècle, Vogue et la mode, le succès d'Oubliez Palerme il y a 50 ans, le cycle Chanel, le cycle Elisabelle Hébrard, son ami Mathieu Gallet, le chroniqueur de théâtre, pas le jeune président de Radio France, on parle ici d'un autre temps, son ami, Mathieu Gallet donc, qui était un peu langue de vipère, disait « La mécanique est si parfaite qu'on ne songe plus à lui chercher une âme. »
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Tout a commencé à Marseille. Je descends, disait-elle, de famille provençale qui n'avait pas cherché à conclure des alliances plus haut qu'Arles et Avignon et qui vivait dans de grands domaines clos.
Nous étions des petits-enfants qui vivions dans une campagne aux environs de Marseille, dans une énorme liberté. La campagne était fermée de murs. On nous laissait absolument livré à nous-mêmes, dans une atmosphère très marseillaise, c'est-à-dire dans une atmosphère de cousins, nous et nos cousins germains, les trois Charleroux, les deux Neuville, et souvent d'autres petits Charleroux qui venaient se joindre à nous. Ma grand-mère était une femme extrêmement cultivée, comme il en existait à cette époque-là, c'est-à-dire qui pouvait réciter par cœur pendant une heure et demie d'affilée, sans s'arrêter, que ce soit Musset, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Baudelaire, Verlaine, Edmond Rostand, sans livre, n'ayant d'autre recours que sa mémoire. Et elle avait trouvé en moi certainement un interlocuteur de choix.
Est-ce que c'est à cause d'Edmond Rostand qu'elle s'appelait Edmonde ? La mère, Sabine, grande mondaine, se voulait amie avec tout ce qui comptait. Edmond ne la voyait pas très souvent. Elle lui doit cependant d'avoir entendu parler pour la première fois de Chanel. Le père était diplomate. Lui était ami avec Pie XII. Il est vrai qu'il fut ambassadeur auprès du Saint-Siège 7 ans durant, de 32 à 39. Edmond passa donc son adolescence à Rome, à l'époque des chemises noires, tout près aussi de ce qu'on appelait la noblesse noire, la noblesse pontificale. Sa sœur deviendra l'épouse du prince del Drago, directeur du cabinet du comte Ciano, le ministre de Mussolini. Son frère, prêtre, ne quittera jamais la soutane et pas vraiment le tricorne, se consacrant à de vaines tentatives de béatification de Marie-Antoinette. Le poste précédent de son père, c'était Prague, qui l'avait marqué beaucoup aussi. Elle disait parler encore le tchèque, ce que peu de Français peuvent vérifier. À Prague, d'ailleurs, on a parlé de sa mort. La presse, curieusement, l'a appelé Edmond Charles Rouxova. Quand vient la guerre, elle a 20 ans à peine, son père est le dernier secrétaire général du Quai d'Orsay de la Troisième République.
Les Français de l'étranger étaient des gens qui étaient beaucoup plus patriotes que les Français eux-mêmes. Nous étions élevés dans une sorte de culte de la patrie lointaine, un peu comme les coloniaux. Alors cette patrie en danger, ça voulait dire quelque chose d'inattendu, de gigantesque, on ne pouvait pas se dévouer assez. Ça a l'air tout ça tout à fait, peut-être... un peu ridicule, un peu emphatique pour les générations actuelles, mais enfin, que faire? On était comme ça. Alors je me suis d'abord employé à faire ce qu'il fallait pour que l'on me prenne dans l'armée, c'est-à-dire des études. J'ai fait des études intensives d'infirmière. C'était des études fort bien organisées à l'époque, dans lesquelles on formait des infirmières du premier degré en 4 mois. C'était la drôle de guerre.
Et ça ne vous a pas rebuté, ces études?
C'est-à-dire que c'était surtout quelque chose d'aussi monstrueux qu'un électrochoc. Enfin, je n'imaginais pas ce qu'était la misère, je n'imaginais pas ce qu'étaient des hôpitaux, et bien moins encore ce qu'étaient les hôpitaux de Marseille en 1940. Vous imaginez ce que c'était que d'être stagiaire dans des hôpitaux de Marseille pour une jeune fille qui venait de Rome. C'était tout à coup la découverte d'une monstrueuse misère, de familles déchirées, de gens en très mauvais état. Tout à coup, je découvrais le monde. Très vite, je me suis dit que le monde n'était peut-être pas ragoûtant. Vous voyez ? J'ai pu terminer mes études en fin avril 40 et j'ai été tout de suite affectée dans une unité combattante. Alors j'ai eu 8 jours pour m'installer, si je puis dire, voir ce que c'était qu'une ambulance. Et puis l'attaque allemande a eu lieu et nous avons été bombardés 6 jours plus tard. Et puis il y a eu la percée allemande et on s'est trouvé sous les bombes avec un nombre de blessés considérable et faisant notre métier d'infirmière. Et ensuite a commencé alors la grande, ce que j'appelle... ce que les Canadiens appelleraient le grand dérangement, et que moi j'appelle la grande vadrouille. Ça ne tenait plus, il a fallu battre en retraite, alors j'ai vu ce que c'était que cette fameuse France invincible, sur laquelle on m'avait tant dit que rien ne pouvait arriver, que nous étions les plus forts.
Une grosse déception ?
Atroce.
Vous êtes sorti de cette guerre comment ? Vous étiez rentré à 18 ans dans cette guerre, vous en êtes sorti...
Complètement différente. J'étais une autre femme. J'en suis sorti une autre femme.
Et vos parents avaient accepté comment ?
C'était des vrais fonctionnaires français de la grande tradition, au service de la patrie avant tout, le service de l'État avant tout. Bon, alors la petite dernière avait décidé qu'elle faisait la guerre. Ben, elle faisait la guerre, d'ailleurs je n'étais pas la seule, mon frère aussi, tous les fils de la famille étaient passés en Afrique. Tout ça était normal, personne ne vous félicitait, on n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et quand je suis rentré chez mon grand-père avec la croix de guerre à 20 ans, avec une citation à l'ordre du corps d'armée, ce qui n'était quand même pas courant, oui. Il m'a dit, la croix de guerre c'est bien, gagner la guerre aurait été mieux. Et c'était tout ce que j'ai eu droit comme compliment.
De retour à Marseille, Edmond découvre une ville, Maelstrom, où se sont jetés beaucoup de Parisiens et d'étrangers qui cherchent un refuge ou une issue vers les pays encore libres. Elle fréquente la campagne de la comtesse Pastré, un château qu'elle redécorera plus tard quand Gaston Defer l'aura racheté pour le compte de la ville. La salle à manger alors est fréquentée par quantité d'artistes en déshérence que la comtesse parfois ne connaît qu'à peine. L'été 1942, dans le parc au pied de la Calanque, est donnée une représentation unique du songe d'une nuit d'été. Christian Bérard a taillé les costumes dans les tentures de la comtesse. Le lendemain matin de cette représentation inoubliable, pour qui y a assisté, ils sont brûlés. Fête, mais fête sans joie, fête unique pour des réfugiés désireux de transfigurer leur exil. Edmond a joué le rôle d'un sylphe. La légende veut aussi qu'elle ait usé de ses relations pour obtenir qu'aucun avion ne survole le domaine de Montredon cette nuit-là. Et peu de soirs après, témoignage d'Antoine Goléa.
Le 25 août 42 est une date dont je me souviendrai toute ma vie, puisque pour moi elle a été marquée par deux choses. Tout d'abord, c'était le jour où les premières grandes rafles anti-juives ont eu lieu à Marseille, faites non pas par les Allemands, mais par la police française, puisque les Allemands n'étaient pas encore là. Les Allemands en sont arrivés en novembre. Et à ce moment-là, la rafle était strictement limitée. D'ailleurs, à la demande de Vichy, qui, comme les Allemands, procédait par étapes, elle était strictement limitée aux juifs étrangers, qui étaient très nombreux à Marseille en tant que réfugiés. Ce même soir, il y avait un concert. Ce concert avait lieu à Montredon, banlieue résidentielle de Marseille, au bord de la mer, où une femme admirable, la comtesse Lily Pastré, résidait. Et sa maison, qui était un véritable château, était un véritable caravansérail dans lequel se rencontraient toutes les nations et toutes les races du monde. Il y avait là une quarantaine de personnes, toutes plus interdites les unes que les autres, qui parce que juives, qui parce que communistes. Il y avait des peintres, des musiciens, des écrivains, il y avait notamment Lanza del Vasto. Et il y avait dans tout ce monde-là que la comtesse Pastrène mourissait, elle s'est ruinée, elle a perdu sa fortune dans cette affaire-là. Il y avait donc la grande pianiste Clara Askill, qui était là parce que juive, et Madame Pastrène lui a offert ce concert qui a eu lieu dans les jardins de Mont-Renon. C'était un festival Mozart, où il y avait, pour commencer, si je ne me trompe, l'ouverture des Noces de Figaro, où il y avait à la fin la symphonie en sol mineur, et où il y avait entre les deux le concerto en ré mineur que jouait Clara Askill. Et ça a été un moment absolument extraordinaire, et c'était d'autant plus poignant que nous pensions tous à ce qui s'était passé le matin.
Bien qu'infirmière, Edmonde n'est pas du genre à jouer pendant une guerre le rôle de dame de bienfaisance. Elle dispose d'un véhicule de la Croix-Rouge, de facilités diverses, et elle sert rapidement d'intermédiaire pour le compte de mouvements de résistance. Bien qu'issue du milieu que l'on sait, elle ne voit pas de difficultés majeures à travailler avec les communistes. Plus tard, elle n'en aura pas non plus à prendre la présidence de l'association des Amis de l'Humanité. Elle mettra un malin plaisir à aller en tailleur Chanel à la fête de l'UMA. À la Libération, elle rejoint l'état-major de Delattre. On sait que le général aimait être entouré de personnes qui avaient de l'allure. Au retour, elle se sentira un peu étrangère à sa famille et elle décidera de travailler. D'abord, écotière à François, grouillot à elle, on devine qu'elle se tient trop près du couple Lazareff pour être cantonnée longtemps à ce rôle. Christian Bérard, l'ami de la Villa Pastrée, l'introduit à Vogue, dont elle devient vite directrice. Elle régnera sur cette rédaction absolument chic jusqu'en 1966. Le luxe, dorénavant, est son monde naturel.
C'est un cadeau du ciel. Hein. Si d'autres le créent et qu'on n'est pas capable de le regarder, je trouve ça d'une immense tristesse. Il y a des gens que ça n'intéresse pas. C'est leur droit, mais moi je continuerai à trouver que la mode est un art, qu'on a eu grandement raison, et le président Mitran de la faire entrer au Louvre, et que les gens qui pensent, et intelligents, élégants, l'affirmation de leur intellectualité à travers la négation de ces valeurs-là, c'est leur droit. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses, fort heureusement. Moi, je dis, j'admire, j'aime, je profite, je regarde, j'apprécie et je remercie. Parce que ce n'est pas moi qui crée, ce sont les créateurs. De même, la haute joaillerie, les bijoux, je passe des heures à regarder les vitrines des grands joailliers de la place Vendôme. Je ne considère pas du tout que ce soit un acte d'imbécilité. Je reste des heures à regarder comment le soleil se mire dans un superbe rubis. Quelle est la véritable beauté d'une émeraude? Quelle est la véritable beauté d'un saphir? Je trouve que tout ça, c'est du luxe peut-être, mais c'est un enrichissement. Alors faudrait-il aussi considérer que, par exemple, les vitraux des cathédrales, je me souviens que nous avons discuté ça avec Aragon pendant des heures. Quel plus grand luxe que le vitrail? C'est un luxe mis au service de la religion. C'est un luxe quand même. On n'avait pas ça dans les catacombes. Hein. Alors faut-il dire que c'est une forme d'amoindrissement de la religion? Moi, j'ai passé toute mon enfance à entendre des Français touristes qui visitaient Rome jaser et ironiser sur les richesses de Saint-Pierre de Rome, disant « quel scandale, cet argent dépensé, etc., le baroque, quelle horreur ». Moi, c'était mon salon d'enfance. Toute mon enfance, j'y ai joué. À la Semaine Sainte, j'allais me faire donner un coup de gaule sur la tête pour me faire enlever mes péchés. Je passais 4 heures de suite à la Sixtine, à 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai toujours considéré que si le luxe pouvait, le luxe, si nous considérons que de faire peindre des murs par des fresquistes, c'est une forme de luxe. On peut aussi dire la religion, c'est un mur nu. Ben, si d'autres préfèrent qu'il y ait des fresques, vive les fresques. Voilà, donc, le Vatican, vive le Vatican. Superbe. Bon, si la religion avait besoin de ce décor pour s'exprimer, bien c'est qu'elle en avait besoin, c'est pas mon problème. Mais je n'ai jamais pu considérer le luxe comme une chose inutile. À condition qu'il ne soit pas basé sur l'exploitation, bien sûr. Mais on peut vivre sans et on peut admirer.
À Vogue, elle avait pris soin d'étalonner les pages culture ou pages de mode, autant de culture que de mode. Pendant cette période, elle est évidemment parisienne jusqu'au snobisme. Et si elle garde des attaches provençales, c'est d'abord par le festival d'Aix. C'est la comtesse Pastrée, toujours elle, qui a initié ce festival avec Gabriel Dussurgey. Edmonde était évidemment dans les parages. À Aix, dont elle deviendra plus tard la présidente, évidemment, la présidente. Elle s'est préoccupée d'amener des peintres, de Reims par exemple, dont elle sera un moment le modèle, se préoccupant peu de son comportement pendant la guerre. Aix avait d'ailleurs commencé par un coup d'éclat. 4 ans après la libération, l'ouverture était faite par une représentation de Così fan tutte, dirigée par un chef autrichien, Hans Rosbaud.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
À l'aide d'archives d'Inter et de Culture, la marche de l'histoire vous restitue la voix d'Edmond Charleroux qui est morte la semaine passée. Comment est-elle devenue écrivain? Il a fallu pour cela que la direction de Vogue lui échappe en 1966. Le légendaire explique que l'actionnaire américain a refusé une photo en couverture d'un mannequin noir. En réalité, la crise couvait depuis un moment. Les Américains trouvaient que la rédaction française prenait trop la lumière et aussi que les amitiés d'Edmond dans la HSC, je veux dire la haute société communiste, étaient compromettantes. En effet, elle était très proche d'Elsa Triolet, d'Aragon, qu'on l'a entendu citer il y a un instant, avec qui elle partageait la même fascination pour les vies à double fond et le mentir vrai. On la voyait aussi quasi tous les soirs au spectacle et dans les réceptions, avec Maurice Druon, qui n'était pas à l'époque un adversaire des communistes. Mathieu Gallet, le chroniqueur, l'a décrit sombre et frémissante auprès de Druon, solaire et superbe. C'est avec lui qu'elle commence ses activités d'édition et d'écrivain. Qui se souvient qu'elle appartenait à l'atelier de Nègre, atelier qui œuvrait au grand jour des rois maudits. On la voit bien dans cette forgerie sculptant le personnage de la sulfureuse Mao d'Artois.
En plus, il me faut assister au baptême. Dolente comme elle l'était, on aurait pu croire que Clémence ne viendrait pas au terme de ses couches. On a vu de plus fortes qui avortent en chemin. Non, elle a tenu ses 9 mois. Elle pouvait nous donner un enfant mort-né, néni, le rejeton vie. Ce pouvait être une fille, point. Il a fallu que ce soit un garçon. Oh, Béatrice.
Oui.
Crois-tu que ça valait la peine de courir de si gros périls, dont certains ne sont point encore écartés, pour être joués par le sort et de pareille façon?
J'ai gardé, madame, un peu de cette bonne poudre qui nous a si bien servi ce printemps pour les dragées du roi.
Tu as bien fait, nous avons tant d'ennemis.
Vous allez tenir l'enfant, madame, puisque vous êtes ma reine. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion de si tôt. Ce n'est qu'une poudre, vous savez,
et qui se voit à peine sur le doigt. C'est une âme sans péché que vous enverriez au ciel.
Dieu sait comment mon gendre prendrait la chose. Trop de gens m'accusent à voix basse. C'est peut-être assez d'un roi pour cette année. Subissons un moment celui qui vient de nous naître.
Edmond s'est peu à peu débarrassé des obligations des rois maudits et de celles du journalisme. Elle reprend un texte resté dans un tiroir. Ce sera « Oublier Palerme », son premier roman que son premier éditeur et éditeur définitif, Grasset soutient beaucoup et Caragon défend bec et ongles et qui obtient le Goncourt en 1966. Charleroux gardera cette technique. Écrire, reprendre, c'est une technique de l'atelier de chez Druon. Relire, ravauder. Elle ne prétend pas à l'originalité dans l'écriture. Elle se présente plutôt comme un artisan qui s'use les yeux tous les jours sur l'établi.
Je suis un écrivain qui écrit avec la plus extrême difficulté, qui a besoin de me conditionner, si je puis dire. La seule excuse d'un rendez-vous extérieur pris, agréable ou non, intéressant ou pas, m'empêche d'écrire pendant toute la journée. La promenade, qui est quand même un des recours de l'écrivain, est pour moi absolument pernicieux. C'est-à-dire que si je vais en me disant « je ne peux pas rester à ma table toute une journée, je vais donc me détendre », quelque chose sollicite mon attention qui m'entraîne et fait que je ne rentre pas, ou que je rentre 3 heures plus tard. Ma journée est perdue. Alors quel est le réflexe de l'écrivain devant une situation pareille? C'est de ne pas sortir. Et alors on arrive à une sorte de claustration. Et en fait, je n'écris mes livres que sans sortir, et je ne voudrais pas que les auditeurs voient là, comment vous dire, une fanfaronnade, car en vérité, je m'en passerais bien. J'aime beaucoup la vie de plein air, j'aime beaucoup le théâtre, où je ne suis pas allée pratiquement depuis 3 ans, j'aime énormément le cinéma, je n'ai vu qu'un film dans toute l'année. J'ai peur de perdre le contact avec la vie artistique, au point de n'être pas allée dans une exposition de peinture depuis maintenant pratiquement 3 ans. Donc ce n'est pas pour mon plaisir, ni pour faire du cinéma, je ne peux pas écrire si j'ai un contact quelconque avec la vie extérieure. Plus, je pourrais au moins profiter du cadre de ma vie. Ainsi, dans la pièce où nous sommes, ouverte sur le vieux port, on pourrait croire que c'était une aide de m'installer, de me dire « mais après tout, je ne sors pas, mais j'ouvre la fenêtre et je vois le vieux port, qui est quand même une des plus belles visions portuaires du monde. » Eh bien, pas du tout. Ça me plaît tant que je ne peux pas écrire devant cette vue et que je suis obligée de m'installer dans une petite pièce, beaucoup moins agréable. Je tourne le dos à la fenêtre et je regarde un mur blanc. Et là, j'écris.
Plus que pour ses romans, Edmond restera pour ses 2 cycles biographiques. Le second sera consacré à l'aventurière du désert, Isabelle Ebrard. Et le premier, qui va connaître un succès sans fin, à Gabrielle Chanel, qu'elle a fréquenté plus ou moins intimement au temps de Vogue, alors que la grande mademoiselle faisait son retour. Chanel se serait dit harassée par ses questions, elle qui devait déjà répondre aux uns, aux autres, ici Pierre Dumayet.
Mademoiselle Chanel, vous êtes très fatiguée, je ne vais vous poser qu'une question. Je viens d'admirer votre collection, mais vous, qu'en pensez-vous?
Bon, je pense qu'elle est un peu démodée.
Déjà?
Elle a déjà une semaine.
Que lui reprochez-vous?
De l'avoir trop vue, pour moi personnellement, et aussi que je suis un peu fatiguée, je pense.
Regardons encore 2 robes, une tunique en crêpe blanc. Et enfin, cette robe de dentelle qui, pour nous, termine cette présentation de la mode 1959.
Personnage féminin de Elle Adrienne, ce personnage, la presse a voulu, à toute force, y voir le personnage de Chanel. L'extérieur du personnage était indéniablement Chanel. L'intérieur ne l'était pas, la vie ne l'était encore moins. Je me suis dit, bien, qu'est-ce que j'ai fait pour faire Elle Adrienne? Je suis partie d'une base réelle en laissant absolument libre cours à mon imagination et même en la sollicitant, en demandant à cette imagination un très grand effort pour m'échapper du personnage qui m'avait servi d'inspiration et créer un personnage de toute pièce. Je vais faire le chemin contraire. Je vais prendre le personnage de départ, c'est-à-dire Gabrielle Chanel, et par tous les moyens les plus définitifs, m'interdire toute imagination et coller à la réalité, écrire une biographie. C'est la démystification, je crois. Enfin, vous savez, on ne sait jamais jusqu'où on démystifie un être humain. Enfin, une tentative, disons, de démystification d'un personnage inconnu dont on a beaucoup parlé et que tout le monde croyait connaître.
En réalité, il faut lire les livres du cycle Chanel, comme ceux du cycle Hébrard, sans doute comme les plans de la licorne dans les aventures de Tintin, en les superposant. Le roman El Adrienne contenait en filigrane la réalité, mais il arrive à l'irrégulière, la biographie, de déplacer cette réalité comme un roman. Edmond n'était pas doué d'imagination, mais elle travaillait beaucoup pour faire glisser les choses imperceptiblement, sans que le lecteur non informé n'y voie malice. Il arrive à François-Marie Bagnier de viser très juste ainsi quand il dit « Elle sait tout sur tout le monde, sinon elle invente pharaoniquement et dans les deux cas, elle tient à distance la vérité, peut-être en a-t-elle peur ?» À l'apogée de cette production littéraire, elle commence à vivre avec Gaston Defer, une association qui devient mariage en 1973. Elle sera mariée avec lui pendant 13 ans et sa veuve intraitable pendant 30 ans.
11h ce matin, la vie à Marseille s'est arrêtée pour les obsèques de son maire, Gaston Defer.
Monsieur le maire, tu as décidé de faire une croisière en solitaire. En partant, tu as oublié ton chapeau. Tes amis te le gardent.
Bon, ça, c'est curieux, par exemple.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je me suis trompé de chapeau.
Hein? Et où ça?
Chez le Mans. Je l'avais laissé en bas dans le vestibule pour monter voir notre pauvre ami. Et en redescendant, j'ai pris celui-là, croyant prendre le mien.
Peut-être le chapeau du mort.
Oh, ça, ce serait funèbre.
L'idée du chapeau porté sur un coussin à la Major, la cathédrale, où viennent d'être célébrées ses propres obsèques, c'est tout Edmond. À Marseille, elle n'a pas été une reine en visite. Sans titre officiel, elle a dirigé de facto la vie culturelle. Defer craignait de passer aux yeux de son électorat pour un esthète, pire pour un intellectuel. Il avait refusé à Malraux une maison de la culture. Maintenant, il accueille Roland Petit et ses ballets, Marcel Maréchal en sacrier, restaure la vieille charité. Avant elle, Defer craignait de passer pour un intellectuel, elle craignait de porter le nom de Defer, et puis finalement, elle l'a pris, elle l'a assumé, et elle a assumé cette autre image d'elle-même.
Nous avons constaté ici à Marseille, en nous promenant, en interrogeant les gens, vous êtes Madame Defer.
Oui, absolument. Oui, mais c'est très bien. Je pense que les gens ont le droit de vous donner le nom qu'ils veulent, s'ils préfèrent le nom de Gaston Defer à mon nom d'écrivain. J'en suis absolument, non seulement pas, disons, mécontente, mais j'en suis extrêmement fière et ravie. Et puis je trouve qu'il n'y a que justice. Parce que Defer a vécu dans cette ville et s'est dévoué pendant 33 ans, donc c'est normal. C'est un homme politique qui a été aimé, c'est une réussite incroyable. Pour moi, c'est beaucoup plus important qu'il soit aimé, qu'il ait réussi à dominer une ville très fortement, puisque c'est une ville qu'il fallait à l'époque dominer de cette façon-là, et malgré cela être aimé. Donc l'approche du peuple, l'approche de la chose publique par Gaston Defer comportait une écoute tellement parfaite qu'à force d'être écouté et de savoir qui il était, les gens l'ont aimé.
Vous avez dit, à propos de cette union, qu'il s'agissait d'un accord entre deux êtres humains tendus vers un idéal au service de la patrie et de la ville.
C'est parfaitement exact, oui. Et c'était un idéal qui m'avait été enseigné par une famille bourgeoise, catholique, et qui lui avait été enseigné à lui par une famille bourgeoise et protestante. Et l'un et l'autre, à un moment de notre vie, nous nous sommes un peu échappés, disons, du carcan que représentent ces deux formes d'éducation pour aller vers un idéal qui était l'idéal socialiste.
La Canebière, la Bourse, le bureau 124, Roatan 60, San Marco 17, Roussel 38,
c'est ma famille. Ce sont des familiers, c'est vraiment le mot. La grande, grande force de Marseille et des Marseillais et des Marseillaises, c'est qu'ils ne connaissent pas de différence entre les plus humbles et les notables. Autrement dit, ils ne reconnaissent pas les notables. Un notable, c'est peut-être un notable, mais ça n'empêche pas qu'il n'y a aucune raison pour ne pas l'appeler par son prénom, ce qui a été le cas de Gaston. Et aussi notable que soit quelqu'un, ça n'empêchera jamais quelqu'un de très, très humble, s'ils sont du même bord, bien entendu, s'ils font partie de la même famille politique, de lui dire, fais attention, tu as les souliers troués, ce qui m'a été dit. Ou bien, ce remarque incroyable dans une inauguration d'une vieille femme, tutoyant Gaston, et lui disant, dis donc Gaston, tes pantalons, hein, ils sont plus à la mode d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on voit ça ailleurs? C'est ça qui fait la force des liens avec les Marseillais. Est-ce que vous avez, à travers de la patate, vous vous gardez bien de vous le garder, comme on dit en marseillais.
Une demande Charleroux enterrée la semaine dernière, avec des obsèques au même endroit que celle de Gaston Defer. Il est 14h passé de quelques secondes. Vous écoutez France Inter.